Eh oui, vous l'avez reconnue. Vous l'avez reconnue. Elle est rentrée. Elle est avec Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour les amis. Bonjour tous les auditeurs qui sont au bout de l'onde et qui sont fidèles à notre émission. Bonjour.
Alors fidèles à une émission, bien sûr, qui a pour caractéristique le cinéma et notamment parfois le cinéma d'auteur. Bah tiens, justement, on vient d'apprendre la mort d'un très grand réalisateur, Georges Lautner, qui avait 87 ans. Il nous a quittés. Donc, alors bien sûr, la filmographie de Georges Lautner compte de nombreux succès. Il a tourné avec les plus grands, Lino Ventura, entre autres, Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin ou Alain Delon. Il avait une filmographie importante, hein, puisque 50 ans de films.
Les monocles avec Paul Meurice.
Les barbouzes, entre autres. Flic ou voyou avec Jean-Paul Belmondo, ou encore Le Pacha avec Jean Gabin. Alain Delon pour La mort d'un pourri ou La maison assassinée en 1988. Alors, phénomène assez étonnant, c'est qu'il devait inaugurer une rue ce mois-ci. Une rue à Nantes sur les Tontons Flingueurs pour fêter les 50 ans de la sortie de ce film qui a été l'un des films illustres bien sûr de Georges Lautner qui s'est associé pour quelques films parfois avec ce terrible parolier qui est...
C'était un duo d'enfer ça.
Michel Audiard.
Ça sent la pomme, il y a de la pomme.
Ça sent la pomme. Bah, tiens justement, on va retrouver un petit extrait de ce film culte sorti en 63, bien sûr les Tontons Flingueurs.
Tiens. Vous avez sorti le vitriol ?
Pourquoi vous dites ça ?
Il a pourtant l'air honnête.
Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux.
Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors, ça faisait des histoires.
Allez !
Honnête. C'est du brutal.
Vous avez raison. Il est curieux, hein?
J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
Voilà, un petit extrait donc des Tontons Flingueurs. Ouais. Bien sûr, il y a d'autres scènes cultes.
Il y avait un acte. On entendait qu'il venait souvent en second rôle, c'est Robert Dalban, qui était dans tous ces films-là. Ah, ouais. Et puis il y avait Maurice Biro.
Maurice Biro, oui. Ouais. Alors là, il y avait Francis Blanche, entre autres. Voilà, donc c'était un petit hommage à notre manière pour les amateurs de cinéma. Qui sont bien sûr peut-être tristes comme beaucoup de cette disparition de Georges Lautner. On le disait hier en antenne d'ailleurs Dominique que bon, la particularité c'est qu'on a le sentiment qu'ils vont tous se retrouver là-haut là.
Ouais.
De plus en plus. Hein.
Je crois que s'ils sont tous là, ils vont encore faire une fête extraordinaire.
J'imagine les dialogues là-haut.
Ouais, je pense que
ça va être terrible.
Ouais, ça sent toujours la pomme là-haut.
Ça sent toujours la pomme là-haut aussi. Bon, on va passer, bien sûr, la vie continue. Hein. La vie continue notamment pour les crèmes et de la bobine avec un week-end chargé. Hein.
Oui, c'est pas mal cette semaine. On a bien rempli les cases. Et William, on va commencer tout de suite par notre film de la semaine. Alors, je voudrais dire que après Persepolis, après Vals avec Bachir, après Le Voyage de Monsieur Grulik, une nouvelle catégorie de films ou un nouveau genre est né. Ça s'appelle, on pourrait l'appeler du moins, le documentaire d'animation de pâte à modeler. Et Jasmine est sa nouvelle pépite. Jasmine, c'est le film que nous présentons cette semaine à l'Altitiné de Montargis. C'est Le Choix des Cramés de la Bobine et c'est un film français qui a été réalisé par Alain Huguetto et présenté en sortie nationale le 30 octobre. Donc c'est un film extrêmement récent. Alors le thème c'est, nous sommes en fait en Iran. Même exactement à Téhéran, c'est un film d'amour impossible sur fond de guerre à la fin des années 70. Les acteurs, alors ça c'est un peu exceptionnel, ce sont des figurines bleues et jaunes en pâte modelée. Et le décor, bah, c'est une ville, bien sûr c'est Téhéran, inventée et reconstruite dans un atelier marseillais à base de blocs de polystyrène. Donc on est dans un vrai film d'animation. Alors en septembre 1978, Alain, donc c'est Alain Huguetto, c'est personnel, ce film rencontre Jasmine à Téhéran. Une relation passionnelle s'installe sur fond de guerre civile. C'est la fin du Shah, l'arrivée de Khomeini. Elle reste en Iran. Elle est ancrée dans son pays. Lui, il va rentrer en France, il va rentrer à Marseille.
79, je dirais.
Ouais, c'est ça, voilà. Et ils s'écrivent régulièrement des aérogrammes, et puis ça s'espace, et puis plus rien. 30 ans plus tard, dans son grenier, il découvre les courriers, il les relit, et reconstruit son histoire, leur histoire à base de sujets en pâte à modeler, comme il faisait à l'époque. Il était déjà animateur il faisait des films d'animation comme ça, il fait des petits sujets en bleu et jaune, et puis il incruste dedans des images d'époque, et il pense à ce fameux film qu'il va baptiser Jasmine. Donc on va écouter la bande son de Jasmine maintenant. C'est bon ?
J'ai reçu ta charmante lettre. Je l'ai lue plusieurs fois. Aziza, rejoins-moi vite.
On y tua 12 000 hommes. Et une noire fumée planait au-dessus des flammes. Toutes les vagues de la mer étaient couleur de bitume. Toute la surface du désert était un fleuve de sang.
Aziza, je me sens déchirée entre toi et ma famille. Morcelée par tout ce qui se passe dans ce pays. J'ai envie de partir, de rester, de courir vers toi, de vivre avec ma famille, avec toi.
Voilà, c'est donc la bande-son du film Jasmine. Assez impressionnant.
C'est particulier. Hein.
Ouais. J'attends la nuit pour voir si les
Moi, je dis assez impressionnant parce que pour les éditeurs qui ne peuvent pas le voir, ouais. Nous, on a la bande, l'extrait, mais assez étonnant ce mélange assez feutré avec ces pâtes à modeler.
Je vais en parler un petit peu plus loin parce qu'il y a toute une histoire autour de cette construction de film. Je voulais simplement dire que c'est une véritable épopée historique et amoureuse. C'est un voyage sensoriel et mental avec qui nous avons rendez-vous. Cette animation en pâte modelée, parce qu'il tient à ce qu'on appelle pâte modelée, pâte à modeler, elle est déjà modelée, hein, d'accord, s'attache à dire la douce et poétique archéologie d'un amour qui autrefois brûla entre l'auteur et Jasmine, cette belle iranienne restée au pays lama. Ici s'entrelacent battements de l'intime et grands mouvements du monde. C'est vrai qu'on est dans un basculement sur cette partie, au moins de l'Asie, enfin du Moyen-Orient. Et c'est une page déterminante d'histoire. Hein. Alain Huguetto, le réalisateur, marie la matière en profondeur, la pétrie des pousses, de sensualité en douleur. La pâte se réchauffe, on l'a vu s'allonge, se détend dans la main, peut se liquéfier sous les charges et les attaques des combattants. Jasmine, où es-tu ? C'est son souhait, il voudrait tellement revenir en arrière. Et il va nous décliner pendant 1h10 cette histoire mélangeant les images de l'actualité de l'époque, puisqu'il avait lui-même filmé des séquences. Il a pris des images de Lina.
Institut national de l'audiovisuel.
Voilà. Et tout ça, ça lui a évoqué ce film.
Non, c'est étonnant en regardant justement Dominique cet exercice qui consiste à, on pourrait penser que la pâte à modeler c'est un jeu pour les enfants, pour les gamins, et bien là on immortalise une situation sociale et politique, ouais, à travers des êtres, et ouais, ces êtres sont représentés à travers ces personnages, ouais, de pâte à modeler.
Alors vous avez vu, William, tous Jasmine et le peuple iranien, l'armée, les résistants, si on peut les appeler comme ça, au moins les opposants, sont en pâte à modeler bleue. Et lui, Alain, est en jaune. C'est le seul personnage en jaune. Et on voit, selon la charge, la violence des attaques, que la pâte à modeler se liquéfie,
module,
se transforme. Y a une petite séquence amoureuse où les pâtes s'enlacent, on les voit, c'est un petit peu...
C'est chaud, hein.
Oui, c'est chaud, parce que la pâte à modeler chaude, elle permet de façonner d'autres personnages. Alors aujourd'hui, ce que je pourrais vous dire, c'est que le vrai projet Jasmine, Jasmine déjà, pour commencer, c'est qu'elle a quitté l'Iran il y a quelques années. C'est une histoire qui a 30 ans. Hein.
Ah oui.
Elle vit,
oui, 79.
Elle vit en Scandinavie, elle est enseignante, elle est mariée, elle a des enfants. Il a retrouvé Jasmine complètement par hasard sur Internet. Donc il a essayé de correspondre un peu avec elle, et puis c'est surtout quand il a retrouvé ses archives qu'il a eu envie de faire ce film. Et je voudrais vous donner quelques petites astuces de film, parce que c'est quand on voit un dessin d'animation comme ça, on peut pas trop se rendre compte comment c'est fait. Alors déjà, il faut savoir qu'ils ont reconstruit, alors bien sûr ils sont entourés de personnages compétents, des gens, des historiens qui ont crédibilisé l'époque et les fêtes, oui, c'est sûr. Il y a des techniciens de décor, mais enfin c'est une petite équipe. Et chaque fois que tout était prêt pour les lumières et tout, on le laissait, Alain Guéteau tout seul dans son truc, il tournait, et après les autres venaient pour voir ce qu'il avait fait. Voilà. Par exemple, ce film a été tourné image par image, à raison de 25 images par seconde. Ce qui fait pour le film 2910 plans mis en boîte. Et lorsque il voyait par exemple des séquences qui étaient mises en boîte, montées, et qui ne correspondaient pas à ce qu'il aurait voulu, lui tout seul il retournait derrière. En fait, son film, il l'a commencé à le tourner à Marseille en avril 2009, et il l'a fini en septembre 2010. Ensuite, il a appelé un personnage pour faire la musique. Il a recomposé des, enfin, il a fait faire de la musique sur ce film qui pouvait bien sûr correspondre à ce qu'il voulait. Et puis j'ai deux choses à dire. Je veux dire que si vous avez l'occasion prochainement dans les mois qui viennent de passer à Marseille, vous pourriez aller du côté du cinéma L'Alhambra. Et puis vous demandez aux gens qui sont à la réception là d'aller visiter le décor de Téhéran qui a été reconstruit en polyester, parce qu'ils l'ont fait dans une petite salle qui est derrière l'écran de cinéma. Oui. Et ils l'ont jamais détruit, il est gardé ce décor. Donc on peut y aller, on peut voir le décor de Jasmine, et on verra, c'est assez étonnant. Dans ce film, on voit de temps en temps apparaître Alain Guéteau, on voit ses mains par exemple quand il prépare un personnage, donc des fois ça se mélange. Oui. Mais des fois on voit carrément le personnage qui passe entre les dans les rues de Téhéran. On a des images assez fortes de la fin du chat, de l'arrivée de Khomeini, de l'illusion de quelque chose, et puis tous les désagréments
du désenchantement
ont mis.
Ensuite
ouais, voilà, le désenchantement, ça c'est terrible, mais c'est comme ça, hein, c'est...
En vous écoutant, je me suis demandé si vous êtes mis à la pâte à modeler, à essayer de moduler ou modeler le personnage.
Je vais modeler un studio de C2L avec un chroniqueur. Vous savez qui dirige le mag, là.
Par exemple.
Et puis, je voudrais ajouter deux choses encore. Je voudrais dire que les voix sont très importantes dans ce film, puisque... Alors la première, c'est la voix d'un garçon, on le connaît bien, et c'est Jean-Pierre Darroussin. C'est Jean-Pierre Darroussin qui représente la voix de Alain. Et puis, pour la dame, la voix de Jasmine, c'était beaucoup plus difficile, parce que il avait trouvé des actrices qui pouvaient le faire, mais il voulait une iranienne. En fait, il en a trouvé une.
On sent qu'il y a un accent quand même.
Ouais, il en a trouvé une. Alain Guéteau a trouvé une iranienne. Alors, cette comédienne a un peu hésité. Elle est en extrême délicatesse avec le régime actuel. Donc, elle a souhaité garder l'anonymat. Et pour le générique, elle s'appellera Fanzanet Ramzi.
Mais alors, elle parle en français. Dommage qu'elle parle pas en perse. Il paraît que c'est très joli.
Là, dans l'histoire, elle parle vraiment, vraiment en français. Jasmine, c'est un film d'animation, donc qui notamment au Festival d'Annecy, Festival de films court-métrage animation, a eu un prix en 2013, donc très, très récemment. Alain Guéteau était au départ, quand je vous disais, pour Jasmine, bon, il faisait à l'époque, il y a une trentaine d'années, il faisait des petits courts-métrages, notamment des films d'animation. Bon, mais ça fonctionnait pas très bien, c'était pas un produit qui était bien reçu par le public et les distributeurs même. Donc il est un peu varié, et puis il est devenu il a fait spécialiste de documentaires, de courts-métrages, et puis il s'est mis à travailler pour FR3 à PACA. On lui demandait des documentaires, donc ça a fonctionné, jusqu'à ce qu'il retrouve ces fameuses lettres de Jasmine et que ça redémarre pour lui. Mais quand même, je crois qu'il faut dire que ce Alain Guéteau a quand même eu, en 1985, le César du meilleur court-métrage. Ça, c'était une belle référence. Et il avait été déjà nommé en 83 pour un autre film. Et là, le César, c'était pour La Boule. Voilà, nos séances pour Jasmine, elles sont bien traditionnelles. C'est toujours le jeudi, le dimanche, le lundi et ce mardi. Et ce mardi, donc, on aura une séance avec un débat à 20h30, animé par Laurence Guyon. Voilà. Et puis, on va aller au soleil, on va se faire une.
Ouais, un petit clin d'œil, tiens, pour Enrique.
On va
comme
faire
on dit, Muito Kench.
Voilà, on va aller voir un peu ce qui se passe par là-bas avec l'immense vedette brésilienne Gilberto Gil.
Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei, eu tiro os outros por mim. Quando almoço, não janto, e quando canto é assim. Agora vou divertir, agora vou começar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir. Quem não quiser escutar, quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem, quer ganhar. E a gente que não tem nada, fica pior do que está. Seu moço, tenha vergonha, acabe a descaração. Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir. Se morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu. Quero ver quem que separa o pó do rico do meu. Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver. Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir. Seu moço, tenha cuidado com sua exploração. Se não lhe dou de presente a sua cova no chão. Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir. Quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui. Agora vou divertir, agora vou terminar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser escutar. Agora vou terminar, agora vou discorrer.
Voilà, c'était donc direction Rio, bien sûr le Brésil. C'était un petit clin d'œil, Dominique. Visiblement, vous êtes aussi, vous, dans l'euphorie de ces héros nationaux.
Ah oui, vous parlez de cette équipe de sales gosses, là, qui se mettent à bien jouer et voilà. À chanter la Marseillaise avec
et
le public.
Et puis après, on nous explique que, voilà, on va être mieux dans nos vies.
Bon, et... C'est bien, je suis content, bien sûr. Mais c'est pas pour ça que j'ai choisi ça, c'est parce que simplement, c'est plus simple chez moi. Jeudi 28 novembre, on a le documentaire du bois, on a un documentaire musical français qui s'appelle Vira Mundo et qui tourne autour de la musique brésilienne de Gilberto Gil, qui part, lui, Gilberto Gil, en tournée dans un nouveau genre à travers l'hémisphère sud, de Bahia, ils seront dans les territoires aborigènes d'Australie. Enfin bon, il va faire un grand tour. On sait qu'il est devenu notamment le premier noir devenu ministre de la culture au Brésil. Hein, donc on a une belle soirée de documentaires le jeudi 28 novembre. Le film, c'est Vira Mundo, c'est un film musical français de Pierre-Yves Borjo. Et puis il sera animé, ce film, par Jean-Loup Ballet. Voilà.
Ça s'invente pas.
Voilà. Et puis derrière ça, le programme du mois de décembre est arrivé. Et mon cher William, on va se promener un petit peu. On va déjà partir au Mexique, voir un film qui s'appelle Workers de José Luis Vallès.
Les travailleurs.
Ah, exactement. Et puis derrière ça, on ira du Brésil, on va filer directement en Argentine. C'est sympa, on ira en Patagonie.
Tu le sens dessous.
Ouais. Et on ira voir le film argentin, donc de Lucia Puenzo, qui s'appelle Le médecin de famille. Film fort.
Et le médico de la famille.
Okay. Ouais, mais c'est. D'accord, on en parlera plus tard. Et puis, on revient chez nous en France, on revient pour voir le film Violette à partir du 11 décembre. Violette, c'est un film français de Martin Provost avec Emmanuel De Vos, Sandrine Kiberlin, Olivier Gourmet. C'est en fait Violette Le Duc, cet écrivain qui est un peu. Qui met son destin entre les mains de Simone de Beauvoir, et c'est un joli film avec une performance d'acteur exceptionnel, Emmanuel De Vos bien sûr, mais surtout aussi Sandrine Kiberlin, qu'on peut voir dans 9 mois ferme, un film un peu déjanté, et puis là dans un film d'une rigidité extraordinaire, et elle est égale à elle-même. C'est une grande actrice française, je trouve qu'elle s'affirme de plus en plus. Et puis on finira l'année avec un film géorgien qui n'est pas souvent le cas. C'est un film de Simon Gross et Nana Ekstimichvili.
Ouais, je vois que vous êtes très polyglotte quand même, vous parlez toutes les langues de la Terre. C'est incroyable. Direction Tbilissi.
Eka et Katia. Voilà donc pour notre programme de décembre. Et puis maintenant, on va peut-être parler un peu de notre week-end.
Alors, une rétrospective Robert Guédiguian, c'est ça. Pas moins de 7 films, je crois, qui vont être programmés à partir d'aujourd'hui et demain.
À partir de tout à l'heure, à 14h. Hein, 14h. On se donne rendez-vous à Alti Ciné.
On peut peut-être rappeler qui est Guédiguian, pour ceux qui ne savent pas. Bon, c'est un quartier populaire situé dans la deuxième ville de France, Marseille.
Il est installé à l'Estac, voilà. C'est un petit quartier de Marseille où les gens, semble-t-il, se connaissent bien. Ça se vit presque comme un village, j'ai l'impression.
C'est vrai.
Hein? Et ce qui est curieux, c'est que Robert Guédiguian, je crois qu'il en est à ses 18 films, il en a dû en tourner 15 à l'Estac.
Comme quoi, il reste fidèle.
Il est fidèle à ses lieux de tournage. Il est fidèle à ses comédiens. Il est fidèle aussi à ses techniciens. William, on décline un petit peu les films qu'on
décline, allons-y.
Alors on commence tout à l'heure à 14h, aujourd'hui samedi, donc l'été dernier. Derrière ça, à 17h, on a Mon père est ingénieur. Les gens qui seront présents à l'Alti Ciné entre les deux films sont conviés au buffet que nous offrons, les cramés de la bobine, au champagne. On les fait venir surtout pour le cinéma, hein, pas pour le champagne.
D'accord.
Et ce soir à 21h, on aura le film À la vie, à la mort. Et puis demain matin, on se donne rendez-vous à 10h30, toujours à l'Alti Ciné. On ira écouter Les pérégrinations de Marie-Jo et ses deux amours. Et à 14h, L'armée du crime, c'est un film sur la résistance. Ensuite, on aura à 17h le film documentaire de Bernard Sassia, Robert sans Robert. Et puis, on finira le soir à 20h45, juste après le buffet du dimanche soir et du champagne, Le promeneur du Champ de Mars, qui est la fin de vie du président François Mitterrand.
Voilà. Alors justement, on va revenir sur ce documentaire Robert sans Robert, qui a été réalisé par le chef monteur français Bernard Sassia, qui a une longue carrière derrière lui, plutôt, on va voir, très fidèle bien sûr à Robert Guédiguian. Et justement, on a Bernard Sassia au téléphone. Bonjour Bernard Sassia.
Bonjour
Bernard.
Alors avant de développer un peu Robert sans Robert et puis on parle de cinéma, on reste dans le cinéma, on a évoqué tout à l'heure la disparition de Georges Lautner, réalisateur donc depuis les années 60, de nombreux films dont Les Tontons Flingueurs entre autres. Justement pour quelqu'un comme vous qui êtes baigné dans le cinéma, qu'est-ce que ça vous fait cette mort de Georges Lautner? Est-ce que c'est un grand du cinéma qui disparaît?
Pour moi, c'est des gens qui ont compté dans le cinéma. En fait, je suis arrivé au cinéma d'une certaine manière par des réalisateurs comme Lautner, en fait, dans ma jeunesse, qui m'ont donné ce désir comme de raconter des histoires, de trouver des mots, de jouer sur le plaisir, en fait, du spectateur avec des histoires. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un cinéma important, en fait, et c'est un cinéma qui est moteur même d'un plaisir cinématographique.
Alors, on va venir à votre actualité immédiate, notamment vous êtes présent demain aux côtés des amis de l'association des Cramés de la Bobine toute la journée, puisqu'il y a cet hommage à Robert Guédiguian. J'ai cru comprendre que c'est un personnage que vous connaissez un peu, Robert Guédiguian.
Oui, je le connais depuis 1980, puisque je suis même maintenant le seul à avoir travaillé sur tous ces films. Donc en 1980, j'étais à l'époque à l'IDEX, c'était une école de cinéma, et je me suis retrouvé à Marseille comme stagiaire régie sur Dernier été, son premier film. J'étais assistant réalisateur à ma sortie de l'IDEX sur Rouge Midi, et à partir de Kilosa, donc le troisième film de Robert Guédiguian, j'ai assuré le montage donc de tous ces films.
Alors, brièvement, justement, Bernard Sassia, on peut rappeler qu'est-ce que ça signifie chef monteur? Ça consiste à quoi dans cette construction qui est celle d'un film?
Si on peut dire, c'est qu'au début d'un film, il y a un rêve d'un réalisateur, qui a envie de raconter une histoire, qui a envie de parler de certaines choses. Si tout se passe bien, quelques années après, ou quelques mois après, ce rêve se concrétise, et il a les moyens de tourner, de mettre des images sur les mots et sur les idées qu'il a pu avoir. Et quelques, semaines après, après le tournage, eh bien, il y a moi, le chef monteur, qui suis en quelque sorte le premier spectateur de ces images et qui va essayer de faire que ce rêve de réalisateur corresponde aux images qu'il a tournées. Et on peut très bien comprendre qu'il peut y avoir une différence entre l'idée de départ et puis ce qui a été, ce qui en ressort du tournage. Donc moi, mon rôle, ça va être d'accompagner le réalisateur entre la fin du tournage et le film définitif.
Mais Bernard Sassia, est-ce que accompagner le réalisateur, c'est pas un peu modifier son projet ou lui prendre une autre direction par rapport à ce qu'il avait à l'origine préparé?
Ça peut l'être, bien évidemment, puisque les images sont pas des mots, en fait. Les images sont, comme on dit, polysémiques. Les images peuvent être lues de différentes manières. Le réalisateur a pu avoir des idées qui ne sont pas dans ces images. Donc, bien évidemment, c'est pas changer pour changer, mais c'est le faire accepter, l'accompagner pour qu'il regarde le film tel qu'il est ou tel qu'il est dans les au moment tel qu'il a tourné.
Et bien sûr, et je veux dire que vous êtes depuis pratiquement le départ et le départ des films de Robert Guédiguian fidèle sur ces tournages. Est-ce que le fait de votre complicité, vous avez vu arriver tout le monde dans ce qu'on peut appeler la tribu, est-ce que votre complicité avec le metteur en scène favorise aussi les échanges et est-ce que vous êtes dans la même passion, dans le même désir, tous ensemble comme ça, et notamment avec le metteur en scène?
Oui, parce que je crois que c'est, comme on dit, c'est un rapport de confiance entre un réalisateur et un monteur. On va vivre pendant 15-16 semaines dans le noir. Je dis d'ailleurs dans le film que Robert a dit que j'étais peut-être celui à qui avait vécu le plus d'heures, avec qui il avait vécu le plus d'heures côte à côte.
Ouais.
Donc c'est évident que ce moment, comme je dis, qui est un moment de parole, il faut une certaine complicité, parce que par exemple le réalisateur va voir des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas, et moi je vais être amené à lui poser des questions. Donc ce dialogue-là se fera d'autant mieux qu'il se fait dans la complicité. Mais par rapport à Robert Guédiguian, moi c'était par exemple une question que je me suis posée à la fin de chaque film. Est-ce que j'aurais le désir de recommencer, de retravailler sur un autre prochain film?
Ouais.
J'ai jamais voulu que ce soit quelque chose d'établi, de dire voilà, j'ai l'étiquette du monteur de Robert Guédiguian et je profite de ça d'une certaine manière pour ne rien faire, pour ne pas travailler ailleurs. Pour moi c'est il s'est trouvé que j'ai pu accompagner Robert Guédiguian pendant ces années, mais entre les films de Robert Guédiguian, j'ai travaillé avec un réalisateur.
On vous a vu avec Jabou Bretman notamment.
Et après, c'était une sorte de découverte et d'une certaine manière, tous les films de Robert Guédiguian posent des enjeux, j'allais dire politiques, sociologiques, mais aussi des enjeux cinématographiques qui me concernent moi, monteur.
Oui. Alors justement, Bernard Sassia, vous qui avez travaillé depuis 30 ans et puis 17 films plus tard aux côtés de Robert Guédiguian a une marque de fabrique, c'est ce matériau qui est l'humain, qui est la situation sociale, c'est des choses qui vous émeut, vous concernent, cette réalité de toucher à l'humain comme Robert Guédiguian le fait très souvent dans ses films.
Oui, pour moi l'humain c'est important. Enfin, d'ailleurs c'est peut-être une des choses qui me rapproche véritablement de Robert, y compris dans mon travail de monteur par exemple. Moi je serais j'aurais beaucoup de difficultés. Ça m'est arrivé de monter un film où il n'y a pas l'humain, où on est que dans un film de genre ou un film purement visuel. En fait, j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose et ce point d'ancrage, c'est souvent l'humain, bien évidemment. Donc je pense que c'est en ce sens que le cinéma de Robert est intéressant. Enfin, c'est aussi parce que c'est à travers ces personnages qui nous racontent des histoires. Et ces personnages-là sont tous humains, enfin, oui.
Alors là, j'ai le sentiment avec ce documentaire donc qui va être présenté demain à l'Alticiné de Montargis, Robert sans Robert. Alors bon, je serais tenté de dire Robert sans Robert, mais avec Robert au final. Est-ce que vous avez le sentiment de franchir une nouvelle étape dans le cadre de votre activité ou pas avec ce documentaire que vous présentez? D'ailleurs, je serais tenté de dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
C'est une étape. C'est pas une étape, j'allais dire.
Pas une fin en soi, bien sûr.
Voilà, c'est ça, c'est une étape dans notre travail. travail, dans notre histoire, bien évidemment. Et si j'ai eu le désir à un moment donné de lui proposer ce film, et s'il me l'a laissé faire, c'est bien évidemment parce qu'on en était à une étape de notre travail où je me suis senti que ce film pouvait amener quelque chose sur notre collaboration. Actuellement, je monte son prochain film, donc ce ne serait pas aussi une étape de de se dire ça y est, je quitte le montage, je deviens réalisateur. Comme une sorte de progression qui m'amènerait du montage à la réalisation.
Non, mais cela dit, c'est un exercice qui peut être intéressant pour vous. Vous avez été dans ce côté qui est le montage, et là, vous travaillez à monter ce que vous avez monté, en fait.
Voilà, c'est ça. Et ce qui me plaisait justement dans ce projet, mon projet de départ, c'était de mettre en évidence le côté cinéaste de Robert Guédiguian. Robert, quand il parle souvent des thèmes de ses films, de pourquoi il a fait ses films, des raisons de ses films. D'ailleurs, là, j'ai le programme là de ce que vous allez présenter. Il y a des thématiques qui se dessinent sur l'engagement, sur la résistance, sur le doute. Et moi, à travers ce film, c'était de parler plus du Robert, cinéaste. De parler de Robert uniquement avec ses images. Le principe du film, c'est je reprends les 17 films de Robert et j'essaie de tisser des histoires un peu parallèles dans ces différents films. C'est-à-dire de se dire tel personnage, par exemple le gangster de Dernier été, c'est le film que vous allez voir ce matin ou cet après-midi, pardon.
Et à 14h, oui.
À 14h, voilà. Donc je dévoile la fin, enfin, qui va ce personnage de Gérard Mélan qui va mourir suite à un casse. S'il n'était pas mort, il pourrait très bien devenir le gangster de La Ville est tranquille dans tel film. Et Marie et la jeune femme de Dernier été pourrait très très bien devenir. Si elle a pu épouser Darroussin, c'est parce que Mélan est mort et elle a pu devenir l'ouvrière des neiges du Kilimandjaro. Donc il y avait cette histoire de tresser un peu. De raconter une histoire avec toutes ces histoires.
Ouais. C'est-à-dire que vous aviez, Bernard Sassien, un stock considérable d'images de
20 400 heures de rush, ouais, j'imagine,
le travail. Donc là, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et avec l'accord de Robert Guédiguian, donc vous avez un peu détourné les acteurs. On les voit dans des époques différentes, dans des scènes qui s'enchaînent d'ailleurs. Et je voulais simplement vous dire, mais finalement, il me semble que vous avez utilisé ces acteurs à l'insu de leur plein gré, quoi, en fait.
À l'insu de leur plein gré, oui. C'est les personnages à l'insu de leur plein gré.
Oui, bien sûr. Non, mais quand on voit, par exemple, Darroussin avec ses bouclettes, et puis quelques années plus tard, avec beaucoup moins de bouclettes, et pourtant, c'est dans la continuation de la séquence, quoi, en fait, c'est ça.
Voilà, et je craignais, je me demandais comment il allait réagir en se voyant avec ses bouclettes, et si cette confrontation de ces deux images allait le ouais. perturber, en fait. Non, pas du tout. Bien évidemment, c'était un détournement, en fait, même si on peut se dire ça, puisque là on parle de cinéma, on oui. est cramé de la bobine, en fait, moi ça rejoint tout à fait cette récupération. En fait, il y a des écritures actuellement cinématographiques qui peuvent dire autour du found footage ou d'autres choses comme ça, de se dire on récupère des images oui. dans un monde où il y a énormément d'images qui ont été tournées et on re-raconte des histoires à partir des images tournées. C'est-à-dire que la différence de ce film, c'est que je pars pas des acteurs du tournage, je pars d'images existantes et à travers ces histoires-là, ces histoires existantes, les histoires de Guédiguian, je raconte d'une certaine manière mes propres histoires. Et c'est la particularité de ce film, c'est que si au début c'était, on pourrait dire, presque un documentaire qui met sur Guédiguian, c'est rapidement devenu un film sur Guédiguian. Et là, je pense que c'est plus un film, c'est-à-dire c'est un film où je raconte des histoires. Et comme je suis monteur, je raconte des histoires de monteurs.
Et bien sûr.
Donc des histoires de monteurs, ça peut passer des histoires de qu'est-ce que ça donne si on met telle musique, si on change la musique sur une image, sur une séquence, qu'est-ce que ça donne si on prend une réplique dans un film et qu'on la met dans un autre film pour éviter la mort de mon héros tragique. C'est ce premier jeu comme ça qui était avec les différentes histoires de Robert. Donc je joue, c'est un monteur qui joue avec les images. Et bien évidemment, il joue et à travers ce jeu-là, il raconte le cinéma de Robert, où il met, où, où il éclaire d'une certaine manière le cinéma de Robert sous un angle différent. C'est même une des raisons, vous allez me poser la question, je vous y réponds sans doute, c'est que si Robert, je crois, aime bien ce film, c'est parce que justement je ne suis pas là pour traduire, pour dire voilà ce qu'il a voulu penser, ou voilà ce qu'il faut penser de ses films. C'est plutôt, j'invite le spectateur à rentrer différemment dans son cinéma et de se faire lui aussi son... De lui donner des impressions, des émotions en confrontant ces différents personnages du cinéma de Robert.
Alors justement, Bernard Sassia, par rapport à Robert, comment il a, effectivement, vous lui expliquez comment il a vu, il a ressenti, est-ce que, par exemple, à l'issue de ce documentaire, tant pour vous que pour lui, ça a amené des doutes, des remises en question, ou un autre regard sur son travail de vous et de lui?
Non, j'espère que ça n'a pas remis des doutes, en fait, ni des remises en question. Je pense que là, on est en train de travailler. Et d'ailleurs, c'est étonnant, c'est que pendant la sortie de ce film-là, j'étais au montage avec lui, donc je retrouvais ma fonction de mon métier, plutôt, je préfère parler de métier de monteur. Donc, par contre, je crois que ça enrichit notre dialogue. C'est évident que je pense que Robert a découvert que quelque part aussi Robert me voit autrement, enfin par un sens, c'est-à-dire voit que son monteur, voilà ce qu'il peut faire, ce qu'il peut être amené à faire, et ça nous a amené aussi à parler de certaines questions, y compris de certaines questions de cinéma. Quand on travaille sur un film, on parle pas beaucoup de généralité, on est là de manière très concrète, de se dire pourquoi tel acteur est là, pourquoi il est pas très bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que là, à ce moment de l'histoire, les choses s'accélèrent un peu. On est souvent dans un travail artisanal très concret, très matériel. Robert ne raconte pas tout ce qu'il a voulu dire sur un film d'un point de vue, et toutes les motivations qui l'ont poussé à écrire ou à réaliser un film. Et là, c'est vrai que de travailler comme ça, de l'ensemble de son cinéma ensemble, ça nous a amené une sorte de réflexion sur certaines correspondances dans son cinéma. Et je crois qu'en plus, ce que maintenant Robert dit, en fait, comme tout réalisateur, à un moment donné, il aime bien se réapproprier les choses qui ont été faites, c'est que ce travail est... Il dit, c'est intéressant que dans l'idée de collectif, de famille qu'il a développé, tout d'un coup un membre de la tribu s'empare des images et donne son regard. Et ce regard-là peut lui-même l'inspirer pour un autre film ou pour un autre travail pour un prochain film.
Comme quoi il a une influence ou il peut avoir une conséquence, ce type de documentaire, au moins, et ça permet aussi une introspection peut-être plus importante.
Oui, et je pense, par exemple, une différence, c'est que depuis, il a fait plusieurs textes sur le cinéma, sur le montage. Je pense que ça l'a aidé aussi, et je pense qu'il a ce désir-là actuellement, et je m'en rends compte en ce moment en étant mixage, de plus en plus d'exprimer aussi des désirs qui sont cinématographiques. Dans un premier temps, il est arrivé au cinéma parce qu'il n'avait pas fait d'école de cinéma. En fait, s'il est arrivé au cinéma, c'est parce qu'il avait surtout envie de raconter certaines choses sur le monde. Et là, maintenant, il commence à accepter, d'une certaine manière, que c'est aussi un cinéaste, en fait, et que et qu'il y a un plaisir aussi de travailler les images, de travailler une lumière, de travailler un cadre, de travailler une confrontation.
Il s'est professionnalisé au fil du temps, si je peux m'exprimer ainsi.
Pardon.
Il s'est professionnalisé au fil du temps, quoi. Ou le temps l'a professionnalisé.
Voilà, je sais pas s'il aimerait beaucoup ce mot professionnalisé.
Il a souvent
écrit qu'en disant cinéaste, c'était pas un métier.
C'est vrai. Non, mais c'est pour ça que je vous fais le petit rapprochement.
Donc, même si, effectivement, voilà. Je pense que c'est le danger, en fait. Je pense qu'il faut pas. Le mot professionnaliser, il faut pas en avoir peur, en fait. Moi, je pense que c'est important d'avoir une expérience. C'est maintenant, il a fait 17 films. Dans les premiers temps, effectivement, moi-même en tant que monteur, j'avais des amis qui étaient de l'école qui me disaient « Robert, c'est pas un cinéaste, c'est un homme, il profite du cinéma uniquement pour raconter des discours ». Voilà, maintenant, je pense qu'il y a différentes rétrospectives.
Bon, bah, en tout cas, on aura bien compris que ce film que vous réalisez, Robert sans Robert, c'est l'histoire de Robert sans Robert, mais on saura tout ou peut-être plus sur Robert.
Voilà.
On permettra de regarder différemment le film.
Alors nous,
Robert, d'une manière très, très ludique, en fait. Hein, c'était vraiment. Parce que c'est une chose que j'ai. Là, je suis un peu le film. C'est le mot. Et pour avoir travaillé, c'est le mot documentaire. C'est-à-dire, c'est plus qu'un documentaire. C'est pas qu'un documentaire qui va nous expliquer Guédiguian, mais c'est inviter le spectateur à s'amuser avec ma complicité,
ouais.
À travers et avec le cinéma de Guédiguian.
Bien, voilà, en tout cas, vous aurez l'occasion demain de voilà. plus en débattre avec notamment les spectateurs. Hein.
Voilà, nous, on est très fiers d'accueillir un des membres de la tribu de Robert Guédiguian. Bernard Sassia, avec votre film Robert sans Robert, vous serez en contact avec le public. Vous le verrez, vous poserez telle question, vous le côtoierez pendant toute la journée. Pour nous, c'est une belle journée de cinéma. On vous remercie de venir nous voir à Montargis. Ouais. On se retrouve demain, donc c'est ça, toute la journée.
Demain, toute la journée. Moi aussi, c'est un plaisir de rencontrer des spectateurs et de revoir avec eux tous ces films.
Et puis aussi d'attendre les réactions et les propos à l'issue du film, bien sûr.
Exactement.
Ah, merci Bernard. Merci à demain.
Merci à vous. Merci. À demain.
Au revoir. Eh bien,
ah voilà.
C'était notre séquence des cramés de la bobine dans le mag ce matin. On a fait un grand tour d'horizon. Et on se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour encore d'autres aventures, d'autres parcours, d'autres découvertes. Allez, à la semaine prochaine. Vive le cinéma!